Et c'est la rentrée géopolitique également après un été très mouvementé, que ce soit au Moyen-Orient ou encore sur le front ukrainien, plus proche de nous en Europe. On analyse ces deux mois écoulés avec Daniel Habert, bien sûr. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme tous les lundis matins à 7h15 pour nos conversations. Alors Daniel, nous sortons des vacances qui ont donné lieu à des phénomènes géopolitiques importants tout de même. Hein. On a eu la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour parler d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Et on a évidemment la guerre à Gaza qui continue. Je vais vous proposer de faire un petit bilan de rentrée. La géopolitique est de retour, nous sommes également de retour. Où en sommes-nous? Que s'est-il passé ces deux derniers mois?
Écoutez, la géopolitique ne prend pas de vacances et effectivement, en plein cœur de l'été, on a eu ce sommet très attendu entre Trump et Poutine, très attendu et au fond décevant puisqu'il semble que rien ne s'est passé. Il faut se hâter de ne pas conclure parce qu'il y a un processus qui a été lancé, il y a encore des délais devant nous, mais il est très probable que Poutine restera sur ses positions comme il le fait depuis le début. Et on va y revenir. Sur Gaza, évidemment, ça est en train de mettre en place l'attaque décisive sur ce qui reste de territoire encore géré par le Hamas, notamment la ville de Gaza. Donc c'est en cours et on voit bien que la diplomatie aujourd'hui doit attendre la fin des opérations militaires. Ce qu'on a pu noter quand même, c'est que cette opération à Gaza a créé une véritable crise diplomatique entre la France et Israël. Je ne sais pas si vous l'avez suivi ici en Belgique, mais elle semble très sérieuse. J'imagine qu'elle va s'apaiser parce que chacun va essayer de limiter les dégâts, mais ça semblait assez sérieux. Et puis, il y a eu quand même, et ça il faut le remarquer, une initiative prise par l'ensemble des Européens. On a vu beaucoup les Européens sur le devant de la scène dans trois domaines. D'abord sur l'Ukraine, où là ils ont compris qu'il fallait qu'ils se prennent en main. Et donc on voit qu'il y a ce qu'ils appellent un groupe de volontaires qui va tenter de remplacer l'intervention américaine pour soutenir l'Ukraine parce que la guerre va se poursuivre. Et puis il y a eu aussi la France qui prend cette initiative de reconnaître l'État de Palestine bientôt à l'Assemblée générale des Nations unies, qui essaie d'entraîner avec elle d'autres pays européens. Donc là, on a vraiment une initiative qui déplaît évidemment beaucoup à Israël et à ceux qui aiment Israël parce qu'elle est trop favorable aux Palestiniens. Et puis il y a cette volonté de l'Europe de redémarrer et en particulier de renforcer ce partenariat franco-allemand qui est au cœur de tout. Et là, la rencontre entre Merz et Macron a été plutôt solide. Et donc voilà, on a vu les Européens être au fond à la tête de la diplomatie.
Oui, alors Donald Trump, le président américain, a déclaré qu'on avançait vers des solutions de paix, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine. Est-ce la vérité? Avance-t-on vraiment?
Alors on avance doucement. C'est vrai que quand il est arrivé, Trump il a défini au fond trois défis et trois promesses. La Chine principale, la Russie et ce qu'on pourrait appeler l'islamisme. Sur la Chine, en un mot, il temporise. Il a le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il mène cependant une guerre commerciale très rude vis-à-vis de la Chine et elle est tellement rude qu'il a donné des délais supplémentaires à la Chine parce qu'il voit bien que c'est un gros morceau à avaler et que, au fond, les punitions de la Chine risquent d'être des punitions en contrepartie pour les Américains. Là, les intérêts sont contradictoires. Donc, il marche sur des œufs, il fait attention et donc ça peut attendre. Par contre, il mène une guerre technologique, mais c'est une guerre technologique avec des exceptions, par exemple, et ça, c'est très important à retenir. Il a accordé à la plus grosse boîte de technologie de puces américaine Nvidia, une richissime boîte, de la possibilité de vendre à la Chine des puces au fond, de dernière génération, à deux conditions: qu'elles soient légèrement dégradées par rapport à ce qui est vendu aux Occidentaux, et deuxièmement, que Nvidia paye une taxe à l'export de 15% à son État américain. C'est quelque chose d'assez innovant, mais bon, c'est déjà arrivé. Et sur le plan politique, on voit qu'il n'y a pas d'initiative majeure. Avec Taïwan, il n'y a pas de danger de guerre immédiat parce qu'il n'y a pas matière. Donc, si vous voulez, avec la Chine, il temporise. Par contre, avec la Russie, il continue son entreprise de séduction. Il pense que l'objectif à long terme est de ramener la Russie dans le sein de l'Occident, dans le G8, de le séparer donc de la Chine. Donc, évidemment, c'est un objectif à très long terme. Et à court terme, bon, il essaye d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Et pour ça, il donne beaucoup à Poutine. Il donne son amitié, sa tolérance, sa patience. Il tord le bras plutôt à Zelensky qu'à Poutine. Et il s'en prend même aux Européens, on l'a vu, et il continue à vouloir les vassaliser. Mais enfin, il constate quand même que ça ne donne pas de grands résultats. On évoque donc des sanctions contre la Russie. Et les Européens pourraient les prendre, mais les Américains existent et hésitent parce qu'au fond, il a un argument, Poutine, qui mérite d'être entendu, qui est de dire: si je sanctionne, je me coupe de ma possibilité de dialogue avec Poutine. Or, il faut laisser un canal ouvert avec Poutine, il faut dialoguer parce que sinon, l'alternative, c'est l'escalade. Et on sait bien, on sait à combien ce qu'on appelle le MAGA, le groupe d'isolationnistes américains, qui est une des bases de Trump, refuse toute implication américaine en dehors des États-Unis. Donc lui aussi marche sur des œufs. Et puis il reste le gros morceau qu'on appelle l'islamisme, et pour lequel évidemment il y a une hésitation chez Trump. D'abord parce qu'il comprend pas ce que c'est que l'islamisme, il sait pas ce que c'est que ces organisations supranationales secrètes comme les frères musulmans. Il connaît que les États. Donc avec l'Iran, là, il a été clair. Il a proposé un deal. Et je revoyais mes notes des mois de février, mars, avril, mai, où vraiment il y avait des négociations qui étaient bien avancées avec l'Iran, mais il a bien compris que l'Iran n'irait pas plus loin, resterait dans sa position de fanatisme. Et donc, il s'est rangé du côté israélien, et donc ils ont bombardé, ils ont fait la guerre aux côtés d'Israël pour la première fois, cette guerre de 12 jours. Sur le Hamas, c'est pas un État, et donc là aussi, les Américains sont prudents. Ils laissent faire Israël, et ils acceptent le fait qu'Israël a rompu la trêve du mois de janvier que lui avait organisée. Il soutient l'action d'Israël autour de Gaza. Et donc, Israël est laissé à sa propre initiative, avec les États-Unis en simple support. Donc voilà un petit
Oui.
peu le bilan qu'on peut faire.
Justement, Israël est de plus en plus esseulé. On ressent une véritable vague de haine partout dans le monde vis-à-vis de l'État hébreu. Daniel, que peut faire justement Israël face à cette vague de haine?
Alors oui, Israël est bien seul, même si en parallèle de rapprochement avec Israël, les États-Unis ont pris soin de renforcer leur lien avec l'Arabie Saoudite. Hein. Souvenez-vous du voyage de Trump dans le Golfe au mois de mai. C'est très important parce que à long terme, l'objectif de Trump, c'est de relancer ces accords d'Abraham qu'il avait inventés en 2020 et de les étendre à l'Arabie Saoudite. Bon, ceci dit, vous avez raison, Israël est bien seul. Il doit faire face à ce tsunami de haine qui déborde sur l'antisémitisme, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire deux, trois choses. La première, c'est que ça va durer tant que les opérations de Gaza dureront, parce que c'est l'aliment permanent de la désinformation. Et là, je crois que ça va être un petit peu long, malheureusement, parce qu'à Gaza, contrairement à ce qu'on pense, le Hamas est toujours là, et il continue à gérer une partie du territoire. Et tant qu'il est là, c'est un obstacle à tout progrès. Il faut bien comprendre que tant que le Hamas a une capacité de gérer Gaza, il n'y aura pas de solution à Gaza, il n'y aura pas de solution de perspective à la solution, à la question palestinienne, il n'y aura pas d'avancée avec l'Arabie Saoudite parce que tout sera bloqué. Donc tout le monde a intérêt à ce que finalement Israël mette fin à cette guerre et vainque le Hamas. Tout le monde le dit, mais seul Israël le fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'interroger sur la réussite de cette campagne de haine contre et de désinformation contre Israël et contre le peuple juif. Je pense que la campagne qui est menée par les ennemis d'Israël, elle est bien conçue. Elle est bien financée et ils utilisent les méthodes les plus modernes de l'intelligence artificielle. Et surtout, ils trouvent des relais en Occident, malheureusement. J'y reviendrai peut-être avec vous un autre jour. Et puis surtout, ils ont touché les opinions, une partie des opinions publiques occidentales, qui, évidemment, la gauche et tous ceux qui attendaient la recrudescence de l'antisémitisme qui n'avait pas disparu, mais qui s'était tue. Et qui revient et qui s'exprime à nouveau. Et cette opinion publique fait pression sur les dirigeants. On voit Macron qui est poussé par sa base woke et islamo-gauchiste à prendre des positions qui sont contraires aux intérêts d'Israël. Et puis il faut s'interroger, c'est un peu presque ma conclusion, sur la capacité de réaction des Juifs en général et d'Israël en particulier. Que peut-on opposer à cette vague? Pour l'instant, pas grand-chose. On est comme tétanisé, tétanisé par la colère et par cette injustice. Et nos réponses, pour l'instant, il faut le dire, hein, elles sont inadaptées, elles sont dispersées. Il n'y a pas de conception forte, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'argent. Alors que l'argent existe, il n'est pas réuni. Et donc, on est à poil, hein, devant cette vague et il faut se reprendre. Hein. Il faut se reprendre, mais si je devais conclure en deux mots, hein, Blaise, je dirais que tant que les opérations à Gaza dureront, on ne peut pas mener d'opérations médiatiques. Donc il faut attendre encore un petit peu et subir. Et surtout, il faudra, le moment venu, organiser une réponse adaptée, beaucoup plus unie, beaucoup plus intelligente et surtout avec beaucoup de moyens.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations et puis on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.